Ce matin, ça va être très simple. On va continuer dans le thème qui a déjà été abordé la semaine dernière, parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, de choses à dire, parce qu'on a parlé de l'adversité. Et j'ai pas besoin de vous expliquer longtemps que l'adversité, il y en a. Il y en a beaucoup. Le diable est quelqu'un qui use de stratégies, de toutes sortes de manipulations pour essayer de nous affaiblir. Parce qu'il sait que quand on est faible, alors on prend de mauvaises décisions, alors on fait de mauvaises choses qu'on regrette après. Il sait que quand on est dans la peur, on pense pas à tout ce qui se passe comme il faut. On est un petit peu, il y a des choses qui sont occultées à notre esprit et donc on ne fait pas les choses que l'on devrait faire. Tenir dans l'adversité, c'est l'exemple qui nous est donné par Néhémie. Vous vous souvenez qu'on a vu que à chaque fois qu'il y avait un petit progrès, alors derrière, il y avait l'ennemi qui essayait de faire quelque chose pour contrecarrer ce progrès-là. Et on va relire donc dans Néhémie au chapitre 4 et au verset 6, on va voir qu'il y a un progrès qui est fait. Et vous remarquerez à quel moment ça arrive, ce passage. Néhémie, chapitre 4, verset 6. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée. Jusqu'où elle a été achevée? Jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Et regardez la suite. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. C'était cet aspect que l'ennemi aime bien envoyer la peur pour nous contrecarrer dans les plans que Dieu fait. Mais vous remarquez à quel moment l'ennemi a choisi de le faire, même s'il avait commencé avant? À la moitié. Vous savez, quand on fait des progrès avec le Seigneur, mais qu'on arrive à la moitié, quand on a l'impression d'avoir fait déjà pas mal de progrès, mais qu'on est à moitié du chemin, c'est souvent là, c'est stratégiquement là que l'ennemi va envoyer toutes sortes d'armes pour nous décourager, pour nous amener le doute, pour nous amener à nous arrêter. Et c'est ce qui s'est passé. Là, il y a eu la ligue qui s'est faite par rapport à tous les ennemis pour entourer Jérusalem. Mais regardez aussi ce qui se passe au verset 9. Nous priâmes notre Dieu et nous établir une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait: les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Amen. À la moitié de l'organisation, à la moitié du travail de restauration de la muraille, il y a toute une pensée qui commence à monter dans le cœur de ceux qui sont à l'œuvre. Et cette pensée, c'est cette arme que l'adversaire, il aime bien utiliser et qu'il utilise beaucoup et beaucoup et beaucoup dans chacune de nos vies. Moi-même, le premier, je peux dire que j'ai été confronté combien de fois? Et si souvent, j'entends quelqu'un taper à la porte de mon cœur pour dire, n'oublie pas de vivre ça, alors que je sais pertinemment que c'est pas la volonté de Dieu, l'ennemi qui veut nous décourager. Il y en a qui ont connu le découragement? Je suis pas tout seul. Je ne crois pas être tout seul. Je sais que c'est peut-être une des armes les plus efficaces. Le découragement. Et vous savez que le découragement, c'est beaucoup plus dangereux que la plus grande épidémie qu'il peut y avoir sur cette terre. À Castelsarrasin, il y a une semaine à peu près, ou 2 semaines, on a eu un problème. Dans notre quartier en particulier. On a eu un problème parce qu'il y avait un risque de contamination par l'eau. Donc tout le réseau d'eau potable était contaminé. Dans notre quartier, certains qui étaient à peut-être 1 km, ils n'étaient pas concernés, mais dans notre quartier, là où le réseau d'eau passait, on était obligé de ne pas prendre l'eau dans le robinet, mais de prendre des bouteilles. À l'école du Courbieu, ils ont distribué des bouteilles pour que on puisse tenir un petit peu, et on a dû en acheter d'autres parce que ça suffisait pas. Mais en tout cas, on a dû boire cette eau-là qui était sûre, alors que l'eau qui était dans le robinet était contaminée. Il y avait un risque d'épidémie par rapport à la gastro-entérite. Mais vous savez que le découragement, c'est beaucoup plus dangereux que la gastro-entérite. Quand c'est la rentrée, on voit que les enfants, ils sont tous contaminés, hein. Ils se contaminent les uns les autres, gastro, et tout ce que vous voulez. Mais le découragement, c'est quelque chose qui est encore plus grave parce que c'est universel. Universel. Personne n'est immunisé contre le découragement. Il n'y a pas de vaccin contre le découragement. Tout le monde, même que ça soit Monsieur Macron, que ça soit les présidents de tous les pays, ou que ça soit le plus petit d'entre nous, que ça soit même celui qui dort dans la rue sur un carton, il peut être touché par le découragement. Vous avez remarqué ça? Le découragement, en plus, c'est récurrent. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai été découragé une fois que je le serai plus jamais, comme certaines maladies. Ça peut revenir, et revenir, et revenir tellement souvent. C'est quelque chose aussi qui est contagieux. Parlez avec quelqu'un qui est découragé, et vous allez voir ce qui se passe. Si vous n'êtes pas préparé à ça, eh bien, petit à petit, le découragement va être propagé par la personne. Et repensez à ce qui s'est passé face au pays de la promesse, un pays, Dieu avait donné des promesses merveilleuses au peuple d'Israël. Dieu avait envoyé, il avait dit d'envoyer 12 espions pour aller voir ce pays, voir combien il était merveilleux. Et c'est vrai que quand ils ont ramené les fruits, c'était des grappes incroyables. Il y avait des fruits magnifiques. Mais les 10 personnes qui sont revenues, il y en a 2 qui n'étaient pas découragées, mais il y en a 10 qui l'étaient. Et la Bible dit qu'ils ont découragé tout le peuple. Malgré les promesses de Dieu, malgré la nuée qui était là, qui les avait conduits jusqu'ici, malgré les miracles qui les avaient sortis d'Égypte, ils ont été découragés simplement par les paroles des hommes qui avaient vu. Oui, il y avait des gens qui étaient assez gaillards. Il y avait les entêtes de Goliath, donc ils devaient être assez grands. Il y avait des grandes murailles aux villes, oui. Il y avait un Dieu puissant. Et combien c'est bon de se souvenir de notre Dieu. Et la question que je vais poser, je trouve presque bête de la poser, cette question. Comment se décourager? Parce que c'est tellement facile, finalement. Mais des fois, on a du mal à mettre des mots sur ce qui nous amène à nous décourager. C'est pour ça que c'est quand même intéressant d'y répondre. C'est vrai qu'on a tous un talent incroyable pour se décourager facilement, mais la Bible nous parle de certaines étapes qui sont là pour nous décourager, justement, quand on fait référence à ce moment où le peuple d'Israël est devant le pays de la promesse, il y a cette phrase qui est donnée dans Deutéronome chapitre 1er verset 28, je la lis pour vous. « Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous, ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak, c'est-à-dire des personnes très très grandes, des géants. » Et vous remarquez que quand on commence à regarder à ce qui est visible, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être réaliste. Je ne fais que dire ça les dernières fois, que Néhémie, c'était un homme pratique. C'était un homme qui était proche. Il avait les mains dans le ciel, mais les pieds sur la terre, cet homme-là. Et nous devons être très pratiques. Nous devons être réalistes face à ce qui nous entoure, face aux difficultés de la vie. Mais nous ne devons pas passer notre temps à regarder les choses visibles qui ne vont pas. Parce que ça, c'est un moyen sûr de se décourager. Quand on est entouré de personnes découragées, on en a parlé. Après une défaite, lorsque Josué a vécu une défaite alors que les gens d'Aï ont tué 36 hommes du peuple d'Israël, vous savez pourquoi ça s'est passé, cette défaite-là? Alors qu'ils avaient remporté la victoire avec Jéricho et qu'ils se sont dit, ça va être la même chose, on va y aller et on va gagner comme la dernière fois. Et ils se sont appuyés sur leur force. Et puis au milieu d'eux, il y avait quelqu'un qui avait désobéi et qui a jeté l'anathème sur tout le peuple. Et il y a eu une défaite. Ils ont perdu quand même 36 hommes, ça veut dire 36 familles en deuil. Il faut se mettre à la place de tout ce qu'ils ont vécu à ce moment-là. Mais il est dit ceci, c'est dans Josué chapitre 7 verset 5 que vous trouvez ça. Suite à cette défaite, le peuple fut consterné et perdit courage. Ça vous arrive de vivre des défaites? Vous vivez que des victoires. Tant mieux, hein, si vous vivez que des victoires, je vous le souhaite. Mais ça peut arriver aussi qu'on se trompe. Ça peut arriver qu'on tombe, qu'on chute. Et dans ces moments-là, on peut se laisser piéger et se décourager. Alors qu'on a un Dieu qui veut nous aider à repartir. Combien c'est bon de réaliser qu'on a un Dieu qui est plein de grâce. Et vous savez ce que c'est la grâce? Qu'est-ce que c'est la grâce? Bon. Voilà. On reçoit quelque chose qu'on n'a pas mérité. La définition que l'on donne souvent, c'est la faveur imméritée. Et des fois, on est là, on est découragé parce qu'on est planté dans notre vie. On est découragé parce qu'on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Si vous savez, toutes ces pensées que l'ennemi aime bien nous murmurer à l'oreille. Et puis, on se dit, il va falloir que je refasse, que je lise beaucoup la Bible. Il va falloir que je prie beaucoup pour que Dieu m'accepte à nouveau. Ça vous est jamais arrivé de penser comme ça? Il va falloir finalement que je mérite la grâce. Eh ben non. Quand je me suis planté, quand j'ai chuté, il faut que je réalise qu'il y a un Dieu qui est plein de grâce, qui a sa main tendue vers moi et qui veut me sortir de là tout à nouveau, comme si c'était la première fois. Vous vous souvenez le jour où vous êtes donné au Seigneur, le jour où la pensée de l'amour de Dieu a saisi votre cœur et vous avez réalisé qu'il n'était pas là pour vous juger, pour vous condamner, mais pour vous sauver. Oui, bien sûr, si on reste sous le péché, on est sous la condamnation du péché, mais on a un Dieu qui veut nous sauver. Et le jour où on a accepté ça, on a compris qu'on ne méritait rien, mais que sa grâce était ce qui nous permettait d'avancer dans la vie, et le Seigneur est celui qui veut répéter ce processus dans notre cœur toutes les fois où on est découragé, où on pense qu'on ne mérite pas la grâce. Mes amis, laissez-moi vous dire qu'on ne méritera jamais la grâce, par définition, parce que c'est une faveur imméritée. Et toutes les fois où on réalise qu'on est pécheur et qu'on veut demander pardon à notre Seigneur, eh bien, il va nous accorder sa grâce et il va nous pardonner. Et ça, c'est un moyen déjà de lutter contre le découragement, de réaliser qu'il y a un Dieu qui est plein de grâce, plein de miséricorde. Quand la parole de Dieu parle, elle nous parle de la richesse de la grâce de Dieu. Et combien je crois que mon Dieu est riche. Oui, riche en bonté, en miséricorde. Que son nom soit béni. Quand on subit une défaite, on peut se laisser décourager. Quand on laisse les mensonges du diable nous toucher, on se décourage. Dans Néhémie, puisqu'on est à Néhémie, on peut lire au chapitre 6, verset 8, même si on y reviendra la prochaine fois, quand l'ennemi nous dit des mensonges et qu'on commence à rentrer dedans, on peut se décourager. Regardez le projet de l'ennemi. Néhémie 6, verset 8. Sambala est en train de raconter toutes sortes de choses et regardez la réponse de Néhémie à Sambala. Je fis répondre à Sambala, ce que tu dis là n'est pas. C'est un mensonge. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Quand on perd courage, ce qui se passe, c'est qu'on s'arrête de travailler à ce à quoi le Seigneur nous appelle à travailler. Quand on se décourage, on baisse les bras, on les met dans les poches et on se dit, de toute façon, ça changera jamais, donc ça sert à rien que je continue. Et c'est exactement ce à quoi l'ennemi s'attend quand il nous envoie certaines pensées, quand il nous envoie du mensonge. Et c'est bon de réaliser qu'il ne faut pas tomber dans ces pièges-là, mais qu'il faut regarder vers l'avant, regarder vers le Seigneur. Parfois, c'est quand Dieu nous corrige, qu'on perd courage. Dans Hébreux chapitre 12, verset 5, vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Ça vous arrive d'être repris par le Seigneur? Ou c'est comme moi aussi? Dis donc, vous êtes bien. Hein, je me demande pourquoi je suis en train de vous prêcher, ça devrait être l'inverse. Moi, je serai assis là et vous tous sur l'estrade. Non, je crois qu'on est tous à la même enseigne. Des fois, on prend bien la correction, mais des fois, ça a du mal à passer, là. Hein. Faut réussir à l'avaler, parce que ça touche à notre orgueil, ça touche à nos convictions profondes, mais qui sont charnelles, qui sont sentimentales, et ça remet en question beaucoup de choses dans notre vie, ça nous sort de notre confort quand le Seigneur nous reprend. Et parfois, on peut se faire piéger en nous laissant décourager au moment où le Seigneur nous reprend. Mais vous savez ce que dit la Bible? Quand le Seigneur nous reprend, c'est pas pour nous embêter. C'est pour notre bien. C'est parce qu'il nous aime. Pourquoi le Seigneur il reprend pas ceux qui sont au dehors? Parce que ce ne sont pas ses enfants. Qu'est-ce que vous penseriez si je voyais un enfant dans la rue qui parle mal et que j'irais le voir et que je le mettrais au coin? Qu'est-ce que vous penseriez si c'était votre enfant? Parce que moi, dans la rue, ça, c'est très lointain, mais si c'était votre enfant et que il parle mal à quelqu'un devant vous, mais je me permets de le prendre et de le mettre au coin. Est-ce que vous viendriez me voir? Vous oubliez le pasteur et vous oubliez tout ça, hein? Moi, je vous le dis, si vous me le faisiez, je viendrais vous voir, je dis, laissez faire, c'est moi le papa, c'est moi qui m'en occupe. Non? C'est comme ça qu'il faut procéder. à qui la responsabilité d'élever l'enfant a été donnée? À l'inconnu qui est dans la rue, qui passe devant au moment où l'action se passe? Ou alors au papa et à la maman? Et Dieu qui est devenu notre Père parce qu'on a accepté son œuvre qu'il a faite en donnant son Fils à la croix, il a le droit, il a même le devoir de nous corriger quand on fait certaines choses qui ne vont pas. Et nous avons le devoir aussi de réaliser que s'il nous reprend, c'est parce qu'il nous aime. Bien sûr que quand on reprend nos enfants, c'est parce qu'on les aime. Bien sûr que quand on les corrige, c'est pour les aider à progresser, c'est pour les aider à ce qu'ils arrêtent certaines mauvaises choses qu'ils ont l'habitude de faire. Quand on les punit ou quand on les met au coin, c'est dans un bon but. Bien sûr, il faut leur expliquer. Si on est que dans la répression, on sait très bien que ça marche pas. Demander aux policiers qui font que mettre des amendes, c'est pas comme ça qu'ils arrêtent le problème. Mais quand on est dans l'explication, alors ça marche. Et vous savez très bien que quand le Seigneur nous corrige, c'est pas juste qu'il nous punit, c'est qu'il nous explique ce qui ne va pas. Si on est honnête, si on accepte d'entendre, si on accepte de recevoir son conseil, alors il nous permet de progresser. Et les moments où il nous reprend, ce sont pas des occasions de découragement, mais ce sont des occasions d'aller encore plus loin avec lui. Et je pourrais continuer la liste de toutes les choses qui peuvent nous décourager, mais on se rend compte finalement que c'est résumé avec cette pensée quand on regarde à ce qui est visible. Quand on reste dans ce domaine de terrestre, on sait, on est sur la terre, on sait qu'il y a des choses qui sont là terrestres, mais on sait aussi qu'il y a un royaume céleste parce que le Seigneur a ouvert notre esprit, a ouvert notre entendement, et par la foi nous sommes capables de discerner les choses qui nous entourent. Nous voyons pas seulement des gens qui vivent leur vie dans ce monde, mais nous voyons aussi par la foi des personnes qui sont perdues, qui risquent l'enfer, des personnes qui sont sous le coup du jugement éternel. Voilà pourquoi nous avons à cœur de pouvoir leur parler de l'amour de Dieu, de pouvoir leur parler de ce que Jésus a fait pour eux. Nous ne sommes pas seulement des personnes qui faisons les choses de la vie courante, mais nous voulons être de ceux qui bâtissent pour le royaume de Dieu. Et la réaction face au découragement, face à ce qui peut nous miner le moral, c'est de regarder à Dieu, de détourner nos yeux de cette terre pendant un instant et puis de regarder à Dieu. Je vous l'assure, pour l'avoir vécu de nombreuses fois, quand on est découragé mais qu'on choisit de prendre du temps devant Dieu, vraiment, honnêtement, simplement, je vous dis pas de réciter toutes sortes de prières, mais simplement d'ouvrir votre cœur en disant « Seigneur, tu vois combien je suis découragé, je sais pas comment faire. » Vous allez voir comment le Seigneur va vous aider à ce moment-là. Il va mettre dans votre cœur des pensées qui vont vous encourager tout à nouveau. Et regardez au verset 14 du chapitre 4, Néhémie, ce qu'il fait. « Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand, et redoutable. » Vous voyez tout de suite Néhémie. Bon, Néhémie, il avait une position d'autorité parce qu'il était là en tant que gouverneur et puis en tant que responsable des travaux. Et il voyait les stratégies de l'adversaire qui était en train de décourager les gens, de leur faire peur, de leur miner le moral. Et donc, il commence à s'adresser à tous avec cette parole. Ne craignez pas. Je vous invite, si vous en avez le courage, c'est le cas de le dire, à regarder toutes les fois dans la Bible où il est dit « ne crains pas, ne craignez pas ». Et vous allez voir combien, il y en a plus que ça même, hein, parce que certains ils sont cachés. Mais en tout cas, il y en a au moins un par jour. Vous allez voir toutes les fois, toutes les circonstances où Dieu a donné cette parole à ses enfants, « ne crains pas ». Des promesses que Dieu nous donne pour ne pas craindre, malgré les difficultés, malgré les moments difficiles. Et Néhémie, il était de cette trempe d'hommes qui était capable de dire dans le moment du découragement, ne crains pas. Est-ce que nous sommes de cette catégorie de personnes qui, dans le découragement, pouvons dire, ne crains pas mon âme, ne crains pas, réjouis-toi. Ne crains pas, loue le Seigneur mon âme. David aussi, et puis les psalmistes, ils avaient cette capacité, ils avaient cette réaction de parler à leur âme pour l'exhorter. Et c'est bien quand on le fait. C'est pas de se parler à soi-même, de passer pour un fou, hein, c'est pas ça dont je parle. Mais il y a des fois où c'est bien de se parler à soi-même pour se donner cette conviction que Dieu est avec nous. Ne crains pas mon âme, car ton Sauveur est là. Ne crains pas mon âme, car ton Seigneur va accomplir ses promesses. Et on peut se répéter toutes les promesses que le Seigneur nous a données. Ça, c'est bien de le faire pour nous-mêmes, mais des fois, c'est bien aussi de s'exhorter. Et c'est ce que Néhémie, il est en train de faire, s'exhorter. Néhémie est en train d'exhorter toute une catégorie de personnes. Et il sait que si les magistrats, si les personnes de pouvoir sont exhortées, si les chefs de famille le sont, alors ils vont communiquer leur encouragement aux personnes qui sont sous leur responsabilité. Est-ce que vous aimez exhorter votre frère, votre sœur? Est-ce que vous le faites? Ça, c'est une question qui est lancée. C'est à chacun d'y répondre. Dans le Nouveau Testament, j'ai trouvé 56 raisons, c'est pas une exagération, 56 raisons pour exhorter. Toutes les fois où le mot exhorter est pris, il y a 56 raisons différentes pour lesquelles on peut le faire. Alors bien sûr, ce matin, je vais pas m'amuser à faire le listing, mais regardez, étudiez la parole et vous verrez toutes les fois où Jésus a parlé d'exhortation, où les apôtres en ont parlé. Je vais me contenter juste de 4, toutes les fois où c'est question de s'exhorter les uns les autres. Donc c'est vraiment précis. S'exhorter les uns les autres à ne pas s'endurcir. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est Dieu qui a endurci notre cœur? Est-ce que vous pensez que c'est Dieu qui a endurci notre cœur? On m'a posé la question une fois parce que dans la Bible, il était marqué « Pharaon, Dieu endurcit le cœur de Pharaon ». Vous avez déjà lu ça? C'est dans la Bible? Oui? Mais est-ce que c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon? Mais non. En fait, souvent, quand il y a des expressions comme ça qui nous interpellent au premier abord, c'est parce qu'il faut comprendre le processus. D'ailleurs, on le lit à plusieurs reprises. Pharaon endurcit lui-même son cœur. Et puis, comment est-ce que ça s'est passé que Pharaon a endurci son cœur face à la situation? Dieu a envoyé un homme, Moïse, avec son frère Aaron, qui ont apporté la parole. Il disait, délivre, libère mon peuple. Et là, à ce moment-là, il est dit, Pharaon endurcit son cœur. C'est-à-dire que quand la parole de Dieu est donnée à quelqu'un et qu'il choisit qu'il refuse cette parole, qu'il ne l'accepte pas, alors il est en train d'endurcir son cœur. Dieu envoie Moïse qui envoie la parole à Pharaon qui endurcit son cœur. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Vous voyez? C'est un raccourci pour expliquer l'histoire. Et c'est intéressant de réaliser que la Bible nous invite à nous exhorter pour pas qu'on s'endurcisse, pour pas que, quand on écoute une parole de Dieu, notre cœur reste insensible, froid, glacé, alors que la parole est là, brûlante, qui résonne, retentit dans notre cœur, mais on refuse d'ouvrir la porte au Seigneur. Souvenez-vous que dans l'Apocalypse, il y a un Jésus qui est là, qui est en train de taper à la porte pour dire « Ouvre-moi », alors que il devrait être au centre de l'Église. L'Église en question, de Laodicée, entend la porte taper parce que Jésus est au dehors. Et c'est vraiment quelque chose dans lequel il faut qu'on s'exhorte, à ce qu'on ne laisse pas Jésus au dehors de nos vies, mais qu'on le laisse dans notre cœur. Et si on peut voir à côté de nous un frère, une sœur qui petit à petit est en train de vivre ces choses-là, notre rôle, c'est de l'aider avec beaucoup d'amour et de douceur, bien sûr. C'est pas en venant avec du reproche. Même Jésus lui-même, qui est le roi des rois, il se contente de taper à la porte. Je veux dire, il est pas bourrin, hein, le Seigneur, quand il agit. Il le fait avec douceur et tendresse. Et nous avons ce devoir de nous exhorter les uns les autres aussi de cette manière. À ne pas nous endurcir. À laisser le vase déborder. Tous, pour ceux qui vous concernent, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance, est capable de vous exhorter les uns les autres. Est-ce que nous sommes remplis de ces bonnes dispositions et nous devons nous exhorter à être remplis de ces bonnes dispositions afin que nos vases que le Seigneur est en train de remplir petit à petit tout le long de nos vies puissent déborder pour ramener à ceux qui nous entourent des grâces particulières, que nous-mêmes nous soyons des moyens de bénédiction du Seigneur. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous. Et exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Exhortez-vous, instruisez-vous par des psaumes, par des cantiques, par des hymnes, etc. Vous saviez que quand on est en train de faire ces choses-là, on est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et la Bible nous exhorte à vivre ces choses-là dans nos vies, à utiliser les moyens que Dieu a mis, les moyens adéquats dans notre vie pour exprimer notre foi. Et si nous arrive, ça peut arriver un jour qu'un frère ne chante pas parce qu'il est dans la tristesse, dans la difficulté, mais nous sommes de ceux qui doivent l'exhorter, non pas à ce qu'il chante, parce que quand il est triste, c'est normal qu'il chante pas. Moi, je préfère que quelqu'un soit triste et ne chante pas, mais avoir quelqu'un après à côté de lui qui veut parler avec lui pour savoir pourquoi il est triste. Viens, on va prier. Viens, on va se fortifier ensemble. C'est comme ça qu'on exhorte. Vous êtes d'accord? C'est pas de forcer les choses, mais c'est de proposer et de toujours laisser le Seigneur convaincre les personnes. 1 Thessaloniciens 5, verset 11 nous dit « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. » Et c'est dans le contexte de quelqu'un qui est en train de veiller. Vous savez que le Seigneur Jésus nous a parlé de veiller, nous a parlé de veiller continuellement. Dans Néhémie, on voit que c'est quelque chose qui s'est passé au moment où ils ont vu qu'il y avait une armée qui était là, ils ont mis en place une garde jour et nuit. Et le Seigneur nous invite à vivre la même réalité dans notre vie, à être de ceux qui veillent et qui prient. D'ailleurs, il y a ce moral qui peut être miné par le découragement, et il y a aussi le doute qui peut prendre possession de nous. C'est ce qui s'est passé quand ils ont commencé à dire, ils ont commencé à douter, ils étaient à la moitié de la muraille, ils sont partis de zéro, ils arrivent à la moitié, et à la moitié ils se disent, on n'y arrivera jamais. Le doute qui s'installe dans leur esprit. Ça aussi, le doute, c'est quelque chose que l'ennemi aime employer. Demandez à Ève, une fois encore. Il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire avec la Genèse. Quand il est question des armes que l'ennemi emploie pour miner le moral des personnes. Dieu a-t-il réellement dit ? Vous vous souvenez ça ? Dieu a-t-il réellement dit? Et on entend de belles choses, parfois le dimanche matin, on est touché par un chant peut-être, ou une parole qui retentit, une prophétie, ou par la prédication, ou par le moment de Sainte-Cène, peu importe. On entend de belles choses, mais quand on sort de ce lieu, il y a une pensée qui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est vraiment vrai tout ce qu'ils disent là-bas? Et ça, laissez-moi vous dire que c'est pas Dieu qui l'inspire. Mais c'est le venin du diable qui a déjà commencé il y a bien longtemps, qui a beaucoup d'expérience en la matière et qui sait comment s'y prendre pour amener le doute dans notre esprit, parce qu'il sait très bien que si on est dans la main de Dieu, nul ne pourra nous retirer de la main de Dieu. Mais si nous-mêmes on sort de la main de Dieu, alors là il peut nous attaquer. Et le problème, c'est quand on laisse le doute s'infiltrer dans notre vie, on donne un accès au diable. Le problème qui se passe, alors que Dieu est là pour bâtir autour de notre vie de belles murailles de protection, le doute, c'est comme une fissure qui commence à se faire, une brèche qui est faite, et là où l'ennemi va pouvoir passer. Quand vous voyez un barrage imposant qui retient une grande quantité d'eau et qu'il y a une petite brèche, vous savez ce qui se passe? C'est que la puissance de l'eau qui est derrière va faire en sorte que la brèche grandisse au fur et à mesure. Et c'est exactement ce qui se passe quand le fleuve de mal est là et l'ennemi vient comme un fleuve. Heureusement, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite, mais l'ennemi vient comme un fleuve. Et si on laisse un accès à l'ennemi dans notre vie, alors on risque de se laisser amener dans la peur. Le doute procure la peur. Et c'est ce qui s'est passé pour Ève, c'est ce qui s'est passé également pour Pierre, quand il est en train de marcher sur l'eau, pourtant il vit une expérience incroyable. Pierre marchant sur l'eau, Pierre a cru par la foi en disant « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne ». Le Seigneur lui dit « Viens ». Il s'appuie sur cette parole, il a sa foi dans la parole de Dieu, il avance, mais dès le moment où il a commencé encore une fois à regarder autour, les choses de la terre, il a oublié la parole que Jésus venait de dire, alors il a commencé à couler. Le doute, c'est ce que Jésus a reproché à Pierre. Combien de fois Jésus pourrait nous le reprocher aussi? Mais nous avons le devoir de résister, de tenir bon malgré ces difficultés que l'ennemi envoie dans nos vies. Jacques 1 nous dit, celui qui demande la sagesse, qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. Celui qui doute, Il n'est pas du tout dans une stabilité, dans une solidité, mais c'est comme s'il est ballotté à tous les flots de la mer. Et je ne sais pas si vous avez le mal de mer, mais imaginez, si vous restez trop longtemps dans le doute, ce qui va se passer. Hier, on a fait quelques manèges avec les enfants, et quand on fait des manèges qui bougent un peu trop, on peut arriver à un moment donné à avoir le mal de mer. Quand on fait le bateau pirate qui se secoue dans tous les sens, et qu'on a un petit peu mal au ventre, à ce moment-là, on n'est pas dans une bonne, dans une sérénité. Et le doute, ça produit exactement la même chose d'un point de vue spirituel. Voilà pourquoi c'est pas bon de rester dans le doute. Parce qu'on est ballotté à tout vent. On n'est plus enraciné dans la parole. Le Seigneur nous invite à avoir cette foi qui demeure malgré les circonstances. Je vais vous redonner ce témoignage qui est revenu sur mon cœur. Je l'ai apporté il y a quelques mois, je crois, mais qui m'avait interpellé. C'était une dame d'origine angolaise qui avait une fille de 17 ans et qui travaillait dans un hôpital, et sa fille aimait l'accompagner à l'église, aimait l'accompagner aux réunions, aimait chanter, aimait toutes ces choses-là. Un jour, alors qu'elle était en repos, elle entend un coup de téléphone, elle répond, et c'est l'hôpital qui lui demande de venir rapidement. Alors elle se pose des questions quand même, c'est son jour de repos, pourquoi il lui demande de venir, est-ce que un collègue est malade, enfin ils n'ont pas donné plus d'explications que ça. Elle arrive à l'hôpital, et à l'hôpital, ce qui se passe, c'est qu'elle voit les gens de l'accueil, elle voit tous les personnels qu'elle connaît, qui, en la regardant, baissent tout de suite les yeux, et lui disent pas de mots. Alors elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe là. Et donc elle se renseigne, et on lui explique que sa fille a eu un accident de scooter, et qu'elle vient de décéder. C'est pour ça que tous les collègues de travail étaient un petit peu mal à l'aise. Et cette dame a choisi de ne pas laisser le doute, de ne pas laisser le découragement, de ne pas laisser les questions pourquoi envahir son cœur. Mais elle a choisi, alors bien sûr elle a eu les larmes, elle a eu le moment de deuil, etc. Mais elle a choisi de tenir bon malgré la difficulté. Elle a choisi de prendre position dans la foi, par la foi, dans la parole de Dieu, et en s'appuyant sur les promesses du Seigneur. Et elle a continué à chanter les louanges du Seigneur. Elle n'a jamais développé ni colère, ni amertume, ni rancune envers Dieu en disant « Seigneur, c'est ta faute !» Comme ça peut arriver des fois des pensées comme ça qui nous traversent dans ces moments-là. Mais elle a tenu bon, parce qu'elle savait que son Dieu était un Dieu plein d'amour. Elle a levé le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Et c'est vraiment un exemple qui m'a interpellé, parce que c'est elle-même qui le racontait quand je l'ai entendu. Et je peux vous dire que ce qui transpirait de son témoignage, c'était pas les larmes, c'était pas la tristesse. Bien sûr qu'il y en avait un petit peu pour parler de ces choses-là, mais c'était surtout la joie et l'amour qu'elle avait pour son Seigneur. Frères et sœurs, est-ce que quand nous sommes dans les moments de découragement ou de doute, nous faisons en sorte de lever le bouclier de la foi et nous appuyer sur les promesses du Seigneur? En tout cas, c'est ce que Néhémie l'a fait. Il s'est fortifié dans la foi, il a exhorté, il s'est lui-même exhorté, il s'est tenu devant Dieu, il a prié, et il s'est fortifié dans la foi aussi en se souvenant de notre grand Dieu est redoutable. Souvenons-nous de qui est Dieu, souvenons-nous de son amour, souvenons-nous de sa puissance, souvenons-nous de ce que le Seigneur a déjà fait pour nous, et croyons que toutes les promesses qu'il nous a données, il va les accomplir pour chacune de nos vies. Je termine avec cette pensée. Il y a trois façons dont Néhémie a répondu et a permis que sa foi soit fortifiée. Cette veille nuit et jour dont on a déjà parlé. Mais c'est important de réaliser qu'il y a des travaux. Il y a des travaux où on a le droit de se reposer. Si on bâtit une maison, le soir, on a le droit d'aller au lit tôt, parce qu'on est fatigué, et de se reposer à ce moment-là. Vous comprenez? Il y en a qui aiment bien travailler même la nuit, mais on a le droit de se reposer, et si on ne le fait pas, on risque de mettre à mal notre corps. Mais il y a des choses auxquelles le Seigneur nous appelle, dans lesquelles il ne faut pas se reposer. Il y a des moments dans nos vies où il faut pas faire de pause. Concernant le royaume de Dieu, on n'a pas le droit de faire de pause. David avait envoyé son armée à la guerre, et il est dit que lui-même il se prélassait sur la terrasse. Il était en train de bronzer au soleil. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, en regardant un petit peu dans Jérusalem, il y a quelque chose qui a attiré son regard. Vous connaissez l'histoire avec Bathsheba. Et ce qui s'est passé, Tout ça a pris sa source dans le fait que cet homme qui aurait dû être en tant que roi à la tête de son armée, il était en train de se prélasser sur sa terrasse. On n'a pas le droit, frères et sœurs, dans la guerre que nous vivons, spirituelle bien sûr, il n'y a aucune guerre physique dont je parle là, mais c'est cette guerre spirituelle face au monde de ténèbres. On n'a pas le droit de se prélasser, mais il faut être de ceux qui veillent et qui prient. Quand les disciples se sont endormis de tristesse, qu'est-ce que Jésus leur a dit ? Veillez et priez. L'esprit est bien disposé, on a de bonnes intentions, mais la chair est faible. Voilà pourquoi il faut veiller et prier. Néhémie réagit de cette manière avec cette veille, jour et nuit. Il réagit aussi en concentrant les personnes sur les points faibles. Et c'est bien aussi dans nos vies de réaliser que nous avons tous des points faibles. Il y a des choses, des domaines dans lesquels on est très fort. Il y a des domaines dans lesquels on n'est pas fort du tout. Spirituellement parlant, bien sûr, je parle. Et c'est important dans ces domaines-là de se fortifier, de chercher auprès de personnes qui sont plus qualifiées que nous pour nous aider à grandir dans ces domaines. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et quand l'ennemi a su la stratégie qui était mise en place, tout de suite il a arrêté les projets de venir envahir la ville de Jérusalem, parce qu'il a vu qu'il y avait des hommes qui étaient prêts. Oui, il y avait des points faibles, mais il y avait des hommes qui étaient là derrière, qui attendaient, avec l'épée à la main. Alors ça n'intéresse pas l'ennemi. Et si vous attendez l'ennemi avec la parole de Dieu dans votre cœur, laissez-moi vous dire qu'il ne va pas venir vous embêter longtemps. Si vous êtes prêt à lever le bouclier de la foi, si vous êtes prêt à revêtir la cuirasse de la justice, si vous êtes prêt à mettre la ceinture de la vérité, toutes ces armes qui nous sont données dans la parole de Dieu, alors l'ennemi ne va pas pouvoir tenir, résister au diable et il vous attaquera plus fort. Non ? Il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. À la limite, ça pourrait être la seule pensée à retenir. Quand on résiste au diable, bien sûr, c'est pas par nos forces, parce que notre foi est fortifiée. Comment est-ce que la foi est fortifiée? Tiens, ça pourrait être l'objet de toute une prédication. Mais je vous rappelle ce passage. La foi vient de ce que l'on entend, et on pourrait dire même comprend. Pas juste entendre, mais comprendre. C'est-à-dire, ça rentre et ça va là. De la parole de Dieu, de la parole de Christ. La foi vient de ce que l'on comprend de la parole de Christ. Amen.